Chers amis, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie que j'anime aujourd'hui avec ma spécialité, ne faire aucun débat, puisque nous recevons les interlocuteurs les uns après les autres. Je vous promets qu'en avril, on essaiera que ça change et que les gens pourront réellement débattre et que vous pourrez vous-même profiter du choc de ces cerveaux. Bonjour Max Erwan Gastino.
Bonjour.
Voilà, vous êtes géopolitologue d'une génération différente de celle de Georges-Henri Soutou. Évidemment, on suit avec intérêt tout ce que vous écrivez depuis des années, puisque vous prêchez pour une France différente dans un monde différent, vous prêchez pour une troisième voie. Avez-vous l'impression que le discours de l'île longue d'Emmanuel Macron est justement en train de dessiner cette troisième voie ou pas ?
Alors, tout d'abord, rappelons en effet ce que l'on peut entendre par troisième voie. C'est un concept qui revient un petit peu au goût du jour, mais qui prend racine au fond à l'époque de la guerre froide, dans le sillage de ce qu'on a appelé le mouvement des non-alignés, conférence de Bandung 1955, des pays qu'on appellerait aujourd'hui du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Japon même, bon, y participait, refusent la logique de bloc, l'affrontement Est-Ouest, refusent de s'aligner sur d'un côté le camp atlantique et de l'autre le camp soviétique. Et puis, côté français, la troisième voie, c'est la voie gaullienne, c'est-à-dire une France qui, à sa manière, participe d'un certain non-alignement, tout en restant un allié fidèle des États-Unis, mais en adoptant une posture différente, grâce notamment à une force de dissuasion nucléaire que le général de Gaulle a voulu, pour que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN et ouvre son horizon stratégique à des acteurs comme la Chine, reconnaissance de la Chine populaire en 1964, et même développement d'un partenariat technologique et scientifique avec l'URSS en pleine guerre froide, donc en 1966. Pourquoi aujourd'hui on parle de nouveau de troisième voie ? Parce que nous voyons aujourd'hui un monde, en effet, où deux nouvelles superpuissances s'affirment, la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et dans ce cadre, tout un ensemble de pays du Sud, comme on dirait aujourd'hui, ou du Sud global, le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, revendiquent une forme de non-alignement, ou ce qu'on appelle aujourd'hui aussi des fois un multi-alignement, c'est-à-dire la possibilité, en fonction de leurs intérêts nationaux, de se rapprocher des Occidentaux, ou des fois aussi de la Chine, de ne choisir au fond personne, et de ne choisir plutôt aucun camp rigide, de s'enfermer dans des alliances rigides, d'assumer une forme de souplesse géostratégique. Et vous avez remarqué ces derniers temps, un pays comme le Canada, dirigé par Mark Carney depuis l'année dernière, revendiquer une sorte de multi-alignement à l'occidental lorsque ce dernier, pour desserrer l'étau trumpien et ses droits de douane qui menaçaient et qui menacent toujours d'ailleurs d'asphyxier l'économie canadienne, face à cet allié relativement agressif, le Canada a décidé de se tourner vers la Chine et donc de prendre le monde tel qu'il est, disait le Premier ministre canadien. Et donc c'est cette troisième voie qui rappelle un petit peu la troisième voie gaullienne que, oui, j'appelle de mes voeux parce qu'elle me semble adaptée à un contexte géostratégique où l'Europe doit s'émanciper hein, s'émanciper des États-Unis, et pour s'émanciper des États-Unis, compter sur des pays qui ont en eux, en quelque sorte, cet ADN de la troisième voie. Et je pense bien évidemment à la France, qui est, comme je l'ai pu l'écrire récemment dans le Figaro, pour des raisons encore une fois historiques, la jambe sud du Nord, ce pays qui dit à l'Europe que nous avons justement une autre vocation que d'être le brillant second de l'agenda géostratégique américain. Et lorsque Emmanuel Macron propose en quelque sorte donc d'étendre le parapluie nucléaire français à nos alliés européens, on peut à la fois affirmer qu'il permet à l'Europe, qu'il pourrait permettre à l'Europe, si on se projette à moyen terme, de remplacer le parapluie américain par un parapluie français, mais en même temps, cela implique de se lier toujours plus à une Allemagne qui, elle, rappelle régulièrement l'importance de cultiver le lien transatlantique. Et donc moi, je m'interroge, est-ce que la France sera davantage en mesure d'affirmer cette troisième voie pour l'Europe si demain, nos moyens de défense et notre politique étrangère sont toujours plus intégrés à une construction européenne dominée par une Allemagne qui ne jure que par un atlantisme de confort?
On a l'impression que vous répondez un peu à la question, d'autant plus que ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est toujours moi qui pourrais appuyer sur le bouton, mais on va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de collaboration avec l'Allemagne. Et d'ailleurs, l'Allemagne, par la voix de Friedrich Merz, donc le chancelier allemand, explique oui, bien sûr, on va collaborer et même encore plus que ça. Le professeur Soutou, juste avant vous, nous rappelait qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, un article était paru dans un journal allemand qui dévoilait déjà un peu les contours du discours de l'île longue. Et donc c'était pas, peut-être que pour les Français qui ont l'habitude que Jupiter tonnant arrive dans un ciel serein et lance un foudre qui nous étonne, mais enfin voilà, outre-Rhin, personne n'a dû être très étonné. Donc on a au contraire l'impression que Emmanuel Macron, mutatis mutandis, est en train de nous expliquer que, ce qui est quand même son idée depuis 2017 et même avant, que cette dissuasion nucléaire n'a de sens que dans le cadre de l'Europe, et comme vous l'avez souligné, cette Europe, pour le moment, n'a de sens que comme inféodée aux États-Unis. Ursula von der Leyen ne cesse d'en donner des gages, Friedrich Merz ne cesse de le rappeler, le commandement de l'OTAN va être donné à un Allemand, ce qui est quand même une nouvelle donne par rapport à tout ce qui avait été pratiqué jusqu'à maintenant. Donc on est en train de se retrouver dans une Europe teutonisée, enfin une Union européenne teutonisée, et avec un président français qui a l'air de considérer qu'au bout du compte, une fois de plus, quand il parle de la France, il ne parle que de l'Union européenne.
Oui, alors je crois que il y a une sorte de malentendu qui persiste. Brzezinski, le grand géostratège américain, dans son fameux grand échiquier publié en 1997, expliquait que l'Allemagne et la France n'investissaient pas la même chose dans l'idée de construction européenne. Il disait que la France, à travers le projet européen, vise la réincarnation, la poursuite de sa politique de grandeur par d'autres moyens. L'Allemagne, elle, vise la rédemption. Par rapport à ses fautes passées, elle participe à une construction européenne qui doit justement ériger une Europe post-hitlérienne et qui ne pourrait plus revivre ce qu'elle a vécu par le passé. Or, moi, je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui, nous vivions à une époque où l'Allemagne continuerait d'être en quelque sorte complexée par ce fameux passé. Nous sommes au contraire, nous vivons au contraire dans une époque où l'Allemagne entend se reconstruire sa base industrielle en profitant de ce moment géopolitique que nous vivons, relance industrielle par le secteur défense, et puis réaffirmation de sa centralité géopolitique. L'Allemagne est la mère du concept de géopolitique au XIXe siècle, et elle renoue avec ses ambitions géopolitiques, des ambitions géopolitiques d'autant plus fortes qu'elle conserve en effet une puissance industrielle importante. Et la France, elle, ne prend pas acte de cette évolution de l'Allemagne. Elle continue de penser que l'Europe, à travers le moteur franco-allemand, est son avenir. Et pas n'importe quelle Europe, une Europe évidemment toujours plus intégrée. Moi, je pense que si l'on veut un petit peu comprendre où se situe aujourd'hui l'Allemagne, il faudrait peut-être justement commencer peut-être par les lire. J'ai sous les yeux un article de Politico. Alors Politico, c'est un journal très lu par le monde économique, j'en témoigne, venant moi-même du secteur de l'énergie. Et Politico est très bien informé sur la place bruxelloise. Et sur la question donc du nucléaire, le journal Politico rapportait cette déclaration d'un officiel allemand, voilà, à propos de l'extension de la dissuasion nucléaire. Il dit « Si quelqu'un pense que l'Allemagne se contenterait d'investir des milliards, tandis que d'autres décideraient de l'acquisition, et de l'utilisation, c'est une erreur. » C'est-à-dire que l'Allemagne annonce que dès lors qu'elle participera d'une façon ou d'une autre au financement d'une dissuasion nucléaire européenne, il faudra ensuite y revenir, elle ne sera pas qu'un fournisseur de fonds, elle voudra aussi avoir son mot, évidemment, à dire. Participer à la décision. Donc avoir aussi un rôle politique. Elle ne veut pas simplement renforcer son outil de défense, mais avoir le poids politique qui va avec pour assouvir son ambition géopolitique, qui est de devenir le pilier européen de l'OTAN.
Ce qui paraît d'ailleurs complètement évident, je veux dire, en fait, dans quelle mesure Emmanuel Macron est innocent ou dans quelle mesure nous prend-il pour des crétins ?
Mais je pense que Macron est l'archétype de ce que le général de Gaulle appelait dans les mémoires d'espoir les illusions de l'école supranationale. Il pense que le moteur franco-allemand va nous permettre de construire une Europe qui permettra à la France de poursuivre sa politique de grandeur par d'autres moyens. Plus l'Europe est forte et intégrée, plus au fond la France, par extension en quelque sorte de sa personnalité géostratégique, rayonnera. Or moi je pense le contraire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut prendre acte du fait qu'une Europe intégrée, ce n'est pas une France en plus grand, c'est une France plus petite, puisqu'une France insérée dans un dispositif institutionnel dominé par des pays qui ne jurent encore une fois que par un atlantisme de confort. Si nous cultivions notre personnalité géostratégique, nous serions en effet plus méfiants à l'égard d'une Allemagne qui s'affirme et qui entend profiter ouvertement de cette opportunité historique que la France lui offre. Il y a tout un ensemble de déclarations, encore une fois, il faut lire les Allemands. Le German Marshall Fund, hein, qui est une institution de réflexion géostratégique importante, a expliqué que l'Allemagne voulait qu'on aille vite, le plus loin possible. Avant 2027, avant mai 2027. Parce qu'ils craignent plus que tout que tout ce qui est annoncé aujourd'hui se casse la figure le jour où le RN sera au pouvoir. Il est annoncé, il est dit que l'Allemagne veut que des décisions irréversibles. Je ne sais pas dans quelle mesure des décisions pourraient être prises aussi rapidement, irréversibles. Mais en tout cas, c'est ce qu'on lit. L'Allemagne veut aller très loin, le plus loin possible, pour que même si le RN arrive au pouvoir en 2027, il ne soit plus possible de revenir en arrière. Donc, ceux qui nous disent et nous rassurent en nous disant « tout ceci ne change rien, tout le discours d'Emmanuel Macron ne change rien, cette idée de dissuasion avancée ne change rien, c'est juste la France qui étend son parapluie et qui donc se place au milieu de la construction européenne », eh bien, lisez ceux qui vont en bénéficier et qui pensent autre chose, qui pensent au contraire que c'est leur moment géopolitique que la France leur permet enfin de réaliser.
Mais cher Maxime, oui. Vous référez au général de Gaulle et à propos, on peut rappeler ce qu'a été la politique étrangère du général de Gaulle. Initialement, il y avait ce projet de diriger l'Europe à trois, avec le Premier ministre anglais et avec le président des États-Unis. Ce fut un échec, se heurtant au refus anglo-saxon de partager effectivement la prise de décision politique. Et puis il y a eu le plan Pouchet, créer une Europe plus politique, plus intégrée, de défense. Là encore, il se heurtait à l'atlantisme des six. Et puis il a resserré ses ambitions vers un couple franco-allemand. Ce fut le traité d'Élysée, qu'on s'est dépouillé de la plupart de ses prérogatives politiques par le Bundestag, ce fut un échec. Et puis il y a ce que vous évoquiez en début d'intervention, cette politique du grand large. Vous vous rappelez, Québec, l'Amérique latine, Phnom Penh, etc. Mais quel bilan on peut tirer de cette politique ? Vous parlez d'un retour, une politique de troisième voie. Quel bilan concrètement en termes de puissance ont été les vitupérations du général de Gaulle au Cambodge, en Argentine, au Québec ? Quel bilan politique on peut tirer par exemple du coup de gueule de Jacques Chirac à Jérusalem, « Do you want me to come back to my country ?» Il faut voir aussi ce qu'on tire de cette politique d'alliance avec le tiers-monde. Et souvent, au regard de l'histoire en tout cas, j'en ai peur, pas grand-chose.
Alors, la question est de savoir si l'Europe est en capacité d'agir, de prendre des décisions stratégiques, sans ce que le général de Gaulle appelait notre fédérateur extérieur. C'est-à-dire que dès lors que les grandes décisions sur la scène géopolitique, et la guerre en Ukraine l'a démontré, nous n'avons décidé en février 2022 que de nous opposer à la Russie que parce que les États-Unis couvraient l'Europe. Il est évident que sans les États-Unis, nous aurions pris acte de la prise de Kiev par Moscou. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Est-ce qu'on veut, en effet, continuer de n'être que le brillant second du réalisme américain. Peut-être, ça peut être une option, ça s'appelle la voie occidentale, ou occidentaliste, ou atlantiste. Ou est-ce que nous voulons être autre chose ? Si nous voulons être autre chose, nous ne pouvons pas nous contenter sur tout un ensemble de sujets stratégiques. Je parlais de mon ancrage professionnel dans le monde de l'énergie. Nous avons voulu nous départir du gaz russe, nous nous sommes tournés vers le gaz américain. Sur le numérique, nous sommes une colonie américaine. En matière de défense, nous sommes une colonie américaine. Un protectorat américain, disait Brzezinski dans son grand livre. Donc on peut trouver ça très bien. Mais si on pense que l'Europe doit construire progressivement son autonomie stratégique, il faut que, un, elle le veuille, qu'elle se dote donc d'un logiciel, non pas anti-américain, mais qui soit capable de se projeter dans le monde sans l'appui des États-Unis. Et il faut, deux, qu'elle s'en donne les moyens. Le général de Gaulle nous donne la doctrine. C'est-à-dire qu'il nous dit, nous n'avons pas vocation à suivre les Américains, la preuve, nous sommes prêts à nous allier avec leurs adversaires géostratégiques. C'est ce que fait aujourd'hui le Canada. Le Canada est ultra dépendant du marché américain, 70% de ses exportations sont destinées aux États-Unis, et il en tire la conclusion que c'est dangereux. Comme les Allemands ont fini par comprendre qu'il était dangereux de dépendre exclusivement du gaz russe. Donc, que vous ayez une lecture critique de la politique étrangère du général de Gaulle, on peut tout en effet discuter des bénéfices concrets que la France a tirés de la reconnaissance de la Chine populaire ou du partenariat stratégique qu'elle a noué avec l'URSS. En revanche, là où on peut utilement se référer au général de Gaulle, c'est d'un point de vue, je dirais, doctrinal. Et vous voyez aujourd'hui également la presse anglo-saxonne, qui a toujours tiré à boulet rouge sur la France pour ses prétentions, ses velléités autonomistes, indépendantistes, titré « Et si la France finalement avait raison ?» Dit économiste, dit « Le général de Gaulle avait finalement peut-être raison. » Parce qu'il faut que l'Europe existe sans les Américains. Et donc la question qui doit... Enfin, en tout cas, c'est l'ambition que je pense que nous devons formuler. Et donc la deuxième question, c'est « Quelles sont les conditions ?» Quelles sont les conditions de cette émancipation ? Et donc là, il y a deux volets, je me répète un petit peu, mais c'est pour résumer et conclure. Il y a deux volets. Vouloir l'émancipation, donc une Europe post-occidentale, ça c'est la philosophie gaullienne, et ensuite les moyens de notre émancipation. Et donc c'est sortir de cette dépendance énergétique, numérique et militaire américaine. Parce que sans cette indépendance-là, les F-35 achetés par les Européens resteront au sol, et nous ne serons pas en mesure de nous doter de la politique étrangère que nous voulons. Peut-être que demain, l'Europe souhaitera de nouveau se rapprocher des Russes. Alors vous me direz, aujourd'hui, Washington serait plutôt en phase avec cette orientation. Ça n'a pas toujours été le cas.
Mais si on restreignait l'horizon stratégique, pourquoi serait-il moins réaliste de vouloir embarquer l'Europe dans une politique d'autonomie, moins dépendante des États-Unis, que de vouloir effectivement refaire une tournée mondiale, un coup au Maghreb, un coup en Amérique latine, un coup chez moi, un coup en Russie, etc. Vous placez sur le plan du réel, effectivement, sur le plan de l'Europe, de recouvrir son autonomie stratégique. Le général de Gaulle disait on reçoit des capitaux, on reçoit aussi des ordres, etc. Il était extrêmement clair là-dessus. Mais on voit qu'il a quand même essayé plusieurs options pour sortir l'Europe de sa dépendance stratégique et qu'il n'avait pas de dogme concernant chemin.
Pardonnez-moi, excusez-moi, je romps le développement, mais de Gaulle ne voulait pas sortir l'Europe de sa dépendance stratégique, il voulait sortir la France de la dépendance américaine. Ce qui est quand même très différent.
Le général de Gaulle a été assez équivoque dans ses discours. Il parlait certes d'une vision française, mais aussi d'une vision continentale.
Mais fondamentalement, il a décidé de développer seul l'outil nucléaire en ne le partageant avec personne, et il s'agissait de développer la France et pas autre chose. Lorsqu'il est allé...
Il a tenté plusieurs trucs.
J'entends bien, mais sur l'outil nucléaire, il est sorti seul de l'OTAN, il a laissé les autres.
Mais il a sorti...
Je n'ai aucune sympathie pour le général de Gaulle d'une manière générale,
oui, ça m'étonne,
naissance jusqu'à la mort, mais de là à expliquer que de Gaulle était un Européen ou un Européiste, alors qu'il a passé sa vie maladroitement et avec des erreurs absolument atroces dans les conséquences et une stupidité et un aveuglement incompréhensible pour quelqu'un qui prétend être un génie des relations internationales quand on voit ce qu'il a fait du Sahara. Donc c'était ma parenthèse gaullienne. on ne peut pas non plus expliquer qu'il a, essayer de sortir l'Europe. Il n'a jamais pensé qu'à la France, et d'ailleurs, il a fait en sorte que l'Europe se construise contre la France, et il a fait en sorte que tous ceux qui en Europe auraient pu vouloir à un moment donné collaborer avec la France ont plutôt décidé de travailler avec succès d'ailleurs contre la France et l'Allemagne au premier rang de nos prétendus partenaires. Ah.
Je pense que notre invité rétablira un peu de vérité, de nuance, c'est ce que vous venez de dire, chéri.
Non, mais alors.
Faites très attention, Max Erwan.
On peut débattre du général de Gaulle.
Ce qui m'intéressait, c'est que vous parliez de la doctrine gaullienne, en tout cas, qui fondamentalement est une doctrine de pays non alignés et qui n'a pas envie de. C'est juste que de Gaulle, évidemment, n'a pas voulu assumer le fait d'être non aligné avec les autres, et donc il était non aligné sur son petit tout seul. Mais voilà.
Alors, il y avait une vision un peu plus. Politique pour l'Europe, c'est en effet le plan Fouché, c'est-à-dire une Europe plus intergouvernementale. Il parlait de l'Europe européenne par opposition à l'Europe atlantiste. Et il craignait en effet une forme de supranationalisme. Là, c'est pas du rapporté par son fameux ancien ministre. Vous allez me retrouver.
Perfit,
merci. Moi, je me méfie toujours un petit peu des propos rapportés. Il faut plutôt écouter les discours, lire les livres, et puis les conférences de presse du général de Gaulle, et qui explique au moment où il sort du commandement intégré de l'OTAN en 1966. Pourquoi, selon lui, le supranationalisme européen ne peut mener qu'à une Europe apolitique et qui donc se tournerait vers celui qui, lui, en aurait une politique. Voilà. Mais le général de Gaulle, en effet, prenait acte aussi d'une forme d'atlantisme de confort, je reprends mon expression, de nos alliés européens, et donc n'allait pas attendre que l'Europe change pour agir et pour concrétiser la certaine idée qu'il se faisait de la France.
Ok. Alors maintenant, revenons à Macron et à cette idée qu'il a de l'Europe. On voit que Giorgia Meloni, par exemple, depuis qu'elle est au pouvoir, indépendamment de la situation économique, est moins florissante qu'elle ne veut bien le présenter, on en a déjà débattu dans cette émission, a lancé toute une série justement d'accords bilatéraux, y compris d'ailleurs avec les ennemis de la France, comme l'Algérie, d'ailleurs vieille tactique italienne qui déjà dans les années 50-60 faisait en sorte de prendre pied au Maghreb. Et elle est en train, elle, non pas de uniquement bâtir sa position européenne, qui est plus solide maintenant, avec en plus cet axe qui nous enthousiasme, Rome-Berlin, qui nous rappelle de bons souvenirs, surtout quand Friedrich Merz explique que la France pourrait dépenser autrement son argent, donc avec ce côté un peu chancelier allemand qui sait mieux que Paris ce qu'on pourrait faire. Elle est en train de développer de vraies relations internationales, et c'est ça qui, semble-t-il, manque à Macron. Je veux dire, il a réussi à faire en sorte qu'on se retire de la Afrique. Gérald Darmanin avait insulté l'Italie peu de temps avant. Il ne travaille pas avec l'Espagne. Ce couple franco-allemand, on voit avec l'épisode du SCAF à quel point il est efficace. Évidemment, les relations avec les Britanniques sont toujours aussi heureuses qu'elles l'ont déjà été. Il n'y a pas d'accord avec le Canada, il n'y a pas d'accord avec l'Amérique du Sud. Et il a prétendu déclarer la guerre à la grogue en expliquant aux Colombiens comment faire pour lutter contre la guerre avec une académie française qui serait installée en Colombie juste avant qu'on apprenne que l'un des conseillers de l'Élysée avait le nez tellement dans la farine qu'on a été obligé de l'exfiltrer du palais. Donc, est-ce que Macron n'est pas, une fois de plus, en train de bâtir une Europe plus qu'il n'est en train de défendre la France ?
Alors, en fait, moi, je pense qu'Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on peut dire, et c'est peut-être son problème, est hyper français. Par bien des aspects. Ursula von der Leyen, je vais lui donner un point ici, lui avait dit une fois, ça avait été rapporté par la presse, il faudrait moins de Victor Hugo et plus de Robert Schuman. Bon. C'était une adresse à Emmanuel Macron. Ce Victor Hugo, c'est le lyrisme européen. Oh France, tu es trop grande pour n'être que frontière, résous-toi à ton immensité, de même qu'Athènes devint la Grèce, que Rome devient la chrétienté, oh ma patrie devient l'humanité. Voilà. Donc il y a un petit peu cet hugolianisme lyrique très français, qui habite Emmanuel Macron et qui agace tout le monde par ses grands discours qui ne sont pas traduits de fait, puisque dans les faits, la France est un pays qui a perdu beaucoup de sa crédibilité politique et économique. À côté de ça, vous avez des gens qui ne se font pas une si grande idée de ce qu'ils peuvent apporter à l'humanité, comme l'Italie, qui n'a pas de véritables ambitions géopolitiques, sinon d'améliorer le sort de sa propre population, le sort sécuritaire, puisque Meloni a quand même été élue avec un programme de réduction de l'immigration qu'elle a en partie réussi à mettre en œuvre. Continue d'avoir une immigration économique pour soutenir son économie, notamment son industrie, qui va bien. mais elle réduit l'immigration notamment clandestine. Et puis, je parlais déjà de l'industrie, l'Italie va beaucoup mieux sur le plan industriel. Donc vous avez en effet, je dirais, une France très lyrique, avec un Emmanuel Macron qui quand même aime la lumière, aime se montrer, aime les grands discours, un petit peu moins résoudre silencieusement les problèmes concrets qui se posent à son pays. On voit bien que tous les voyants sont au rouge, l'école, la sécurité, l'industrie, etc. Et puis vous avez à côté un pays qui, de façon assez pragmatique, hein, cherche à avancer. Alors cherche à avancer avec les pays d'Afrique du Nord sur l'immigration, cherche à cultiver ses relations avec Donald Trump parce que l'Italie, comme tout pays européen, a besoin du marché américain. Et puis je pense que l'Italie, même si elle est l'expression d'une forme d'occidentalisme, elle aussi un petit peu de confort, n'hésiterait pas, si elle en avait besoin, à se rapprocher peut-être davantage de l'Amérique latine, de la Chine. Une forme de pragmatisme italien, puisque l'Italie, encore une fois, n'est pas habitée par cette emphase lyrique, hugolienne, qui anime la France, qui anime les élites françaises, surtout les élites technocratiques un petit peu hors sol, dont Emmanuel Macron est l'expression, et donc une expression au fond très, très française, hein, de la vision de la politique et de l'avenir de l'Europe.
Très républicaine en tout cas. Marie-Charlotte Dubonblanc.
Sur un article que vous avez écrit, enfin c'est une tribune que vous aviez fait paraître dans le Figaro Vox début décembre 2025, vous invitiez les Européens à relire Huntington pour comprendre la politique sécuritaire américaine. Est-ce que ce que vous avez écrit en décembre 2025 est pour vous toujours d'actualité? Est-ce que les Européens, et surtout les Français, puisque ça nous concerne davantage, auraient besoin de relire Huntington? Et pourquoi?
Alors, oui, c'est toujours valable, puisque cette tribune donc date de décembre, parce que c'est en décembre que nous avons découvert la stratégie de sécurité nationale américaine. Et dans cette stratégie, les Américains disent « Nous devons veiller à ce que l'Europe retrouve une forme de confiance civilisationnelle. » Parce que, dans un monde marqué par la montée en puissance de la Chine, nous avons besoin d'un hémisphère occidental fort. Et dans le mot hémisphère occidental, il y a l'Amérique latine et puis il y a surtout l'Europe, qui, en dépit de tout, reste un marché stratégique pour les Américains. Et donc les Américains, dans cette stratégie, disent notre sécurité économique, notre devenir économique, qui est synonyme de notre sécurité nationale, passe par une Europe plus forte. Et une Europe plus forte, c'est une Europe qui retrouve confiance dans ses racines civilisationnelles. Il y a un lien, selon eux, et c'est là où c'est très Huntingtonien, entre la capacité d'une entité politique à vouloir se défendre et à se penser comme spécifique. C'est parce que vous vous pensez comme spécifique, doté d'une histoire spécifique, doté de racines culturelles spécifiques, que vous voulez demain exister en tant qu'entité spécifique, et donc vous battre, et donc vous donner les moyens de la puissance. Et pour eux, le risque est de voir une Europe qui, du fait de l'immigration, perd son identité civilisationnelle occidentale. Et le jour où l'Europe perdra son identité civilisationnelle occidentale, elle aura moins le réflexe de se tourner vers son grand allié occidental américain. Et ça, c'est dans Huntington. Huntington dit, vous l'avez surtout dans son autre grand livre, Qui sommes-nous, où il dit, le multiculturalisme est un danger à l'intérieur de nos nations. Il plaide plutôt pour une forme de multiculturalisme à l'international. Il faut reconnaître la diversité du monde, on est différent, c'est comme ça. Il faut arrêter avec l'universalisme, il dit. Par contre, à l'intérieur, il faut veiller à l'unité civilisationnelle de nos États-nations, parce que des alliances géostratégiques, matérielles, économiques, militaires, sont d'autant plus fortes qu'elles se superposent à un arrière-fond civilisationnel commun. Et si demain, du fait de l'immigration, les Américains s'hispanisent de trop, si demain, du fait de l'immigration, l'Europe s'islamise de trop, eh bien, nous n'aurons plus rien à nous dire. Et donc, l'Occident se fracturera, et donc, nous serons d'autant plus faibles que les autres, eux, s'affirment. Voilà. Donc ça, c'est la vision de Huntington, c'est la vision de la stratégie nationale américaine, et c'est pour ça que les Américains nous demandent de réagir sur l'immigration. C'est pas simplement pour nous aider, même si je pense qu'il y a aussi un petit peu de sincérité lorsque Donald Trump rappelle ses racines européennes, mais c'est aussi parce qu'ils se disent « on aura besoin de l'Europe », parce que si l'Europe se désoccidentalise culturellement, eh bien nous perdrons peut-être déjà pied sur la plaque eurasiatique, je pense aussi toujours ce vieux réflexe géopolitique américain, mais nous perdrons surtout un allié précieux, un débouché essentiel pour notre industrie, notamment notre industrie de défense. Il faut bien que les Américains continuent de défendre bec et ongle l'ouverture des fonds européens en matière de défense aux technologies américaines, ce à quoi l'Allemagne veille, hein, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement, l'Allemagne veille à être très vassalisée et par
refus du protectionnisme européen, refus d'un Buy European Act, c'est-à-dire le fait que nous devons privilégier les industries européennes.
Mais c'est parce qu'elle exporte. Ce n'est pas par atlantisme.
Mais c'est pas. Il y a deux choses. C'est-à-dire qu'elle exporte, donc elle craint en effet tout protectionnisme qui pourrait lui fermer la porte, mais elle veut aussi s'affirmer en Europe comme le pilier européen de l'OTAN, c'est rappelé régulièrement, et pour cela, elle a besoin de l'appui des États-Unis, elle a besoin de ce lien de confiance qu'elle a su créer avec les États-Unis depuis 1945, et donc il y a une sorte d'alliance objective entre l'affirmation de l'Allemagne en Europe et l'unité du monde occidental. Et donc que les Américains misent, comme depuis des décennies, sur le cheval allemand, en confiant par exemple pour la première fois de l'histoire à un Allemand le commandement intégré de l'OTAN, tout cela fait sens. D'ailleurs, Brzezinski, dans son fameux grand échiquier, dit qu'il faut veiller au couple franco-allemand, car c'est le meilleur moyen de tenir la France et d'exploiter la domination de l'Allemagne.
Mais ce couple franco-allemand, on en parlait avec notre invité juste avant votre venue, ça fait longtemps qu'il fait chambre à part, ça n'existe pas, enfin ça n'existe plus en tout cas. Ou a-t-il seulement réellement existé ?
Alors, on sait très bien que la sémantique, le couple franco-allemand n'a jamais existé outre-Rhin, mais alors que nous commencions tous à acter le fait qu'il n'existe pas ou qu'il n'existe plus, l'Élysée a tenu à inventer un nouveau concept, celui de réflexe franco-allemand. Alors que, en effet, les Allemands n'ont pas voulu avancer avec nous sur un char européen, ils ont préféré faire le leur dans leur coin. Sur le SCAF, ils sont d'accord à condition d'avoir en quelque sorte la main sur le savoir-faire technologique qui va sortir de cette coopération, d'où les craintes de Dassault. Ils ne sont pas d'accord avec nous sur le Mercosur. Enfin, il n'y a pas d'alignement allemand. Il y a simplement un alignement franco-allemand. Il y a simplement un alignement franco-allemand lorsque la France est prête, en effet, à céder sur tout un ensemble de questions. Et c'est pour ça que moi, je voudrais simplement rappeler quand même quelque chose par rapport à ce discours tenu hier dans la rade de Brest. C'est que, en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'a un petit peu alerté, c'est les arguments déployés par Emmanuel Macron pour nous dire que le contexte se prête à une avancée en termes d'intégration européenne sur la dissuasion nucléaire. Ce contexte, la menace russe, le retrait américain n'existe pas. La menace russe, on peut en discuter. Là où j'ai trouvé cet argument fallacieux, c'est que ce projet-là était dans les cartons bien avant l'émergence de la menace russe du fait de l'invasion de l'Ukraine. Le traité d'Aix-la-Chapelle, article 4, prévoit déjà ce à quoi nous assistons, un renforcement de la coopération franco-allemande sur les questions nucléaires. Donc, il y avait, et puis dès 2017, Emmanuel Macron nomme ministre des armées, Madame Goulard, qui avait fait pour première déclaration, qui avait dit, pour commencer avant de démissionner, qu'il fallait casser un certain nombre d'avantages industriels français pour insérer la France dans des coopérations industrielles avec l'Allemagne, y compris en matière de défense. Donc, le macronisme, c'est ça. C'est insérer la France, intégrer la France dans l'Europe grâce au couple franco-allemand. Et ça, évidemment, l'Allemagne y est favorable.
Alors, l'Allemagne y est favorable. Évidemment, pour le moment, ça tourne à la déroute complète de la France, d'un point de vue industriel et agricole. Il faut même rappeler des trucs assez amusants, comme par exemple, chaque fois qu'il y a un couple franco-allemand, mais un vrai, qui a eu des enfants et qu'il y a un divorce, les juges allemands donnent systématiquement la garde des enfants aux ressortissants allemands en expliquant qu'il sera mieux éduqué et que c'est beaucoup mieux pour son équilibre psychologique. Voilà, donc ça fait partie des choses que les chancelleries françaises balayent sous le tapis régulièrement, mais donc on voit effectivement ce qu'est ce couple franco-allemand. Mais puisque le sujet de l'émission c'est la France à l'international, demain, est-ce qu'il y a malgré tout à un moment donné quelque chose qui permet de se dire qu'une fois que la France sera réveillée de ce cauchemar du couple franco-allemand, elle va réussir à non pas acquérir une stature internationale, elle a déjà, ne serait-ce que par la puissance de son économie même chancelante, ou le reste de sa diplomatie même saccagée, déjà cette stature-là, mais est-ce qu'elle va enfin réussir à comprendre que c'est son intérêt national qu'elle doit servir plutôt qu'une des idées, des idéologies, des utopies.
Et c'est ce que j'avais écrit dans mon dernier livre sorti en 2023 aux éditions du CERF. Et si nous nous concentrions sur la sécurité de notre espace national ? Nous ne sommes pas obligés d'avoir de grandes ambitions pour le monde. C'est-à-dire que je parlais du Canada. On va voir si ça se concrétise. Hein. Cette velléité d'affirmation un petit peu comme ça géopolitique du Canada. Mais le Canada, c'est la 10e puissance économique du monde et c'est 40 millions d'habitants. La France régresse sur tout un ensemble de questions, mais demeure la 7e économie du monde. Elle dispose du premier ou du deuxième territoire maritime du monde selon les classements. Elle dispose de tout un ensemble d'atouts, un véritable prestige historique et culturel, une langue qui, elle aussi, continue d'être parlée. Donc, je veux dire, un pays qui déjà se contenterait de valoriser ses propres atouts et de veiller à la sécurité de son espace national, et notamment de son espace maritime, plutôt que d'envisager des innovations institutionnelles qui préparent, par exemple, la sortie de la Nouvelle-Calédonie du giron national, eh ben, je pense que la France gagnerait à se concentrer sur elle-même avant peut-être un jour de nouveau de rayonner et de prétendre participer à la reconfiguration du monde. Hein. Donc oui, moi les phases de déclin sont appellent aussi à une forme, alors non pas d'isolationnisme, puisque nous conservons des atouts, nous avons notre mot à dire, nous avons une influence en Europe que nous n'utilisons pas assez bien, je pense. Donc nous n'allons pas nous retirer du monde.
L'isolationnisme n'est pas un gros mot.
Pardon.
L'isolationnisme n'est pas un gros
c'est
mot.
C'est pas un gros mot.
Le Japon s'est développé en se retournant sur son marché intérieur. Les États-Unis elles-mêmes se sont développées leur propre industrie en se recentrant sur leur marché intérieur. Ce n'est pas un mot qui doit faire peur à la France, finalement. Et vous parlez de la puissance française, des atouts qu'elle conserve. On voit que le monde entier rêve de venir vivre en France. On voit qu'il y a de l'investissement, on voit qu'il y a du tourisme. C'est vrai qu'une France qui considérerait ses richesses mobilières, ne serait-ce que ses richesses foncières, déjà reprendrait conscience d'elle-même.
Oui, je suis assez d'accord avec cette position. Alors, je ne reprends pas complètement le terme d'isolationnisme, parce que voilà, je pense que nous pouvons continuer tout de même, pas simplement d'incarner, mais lorsque nous intervenions en Afrique, on pourrait discuter d'ailleurs du bilan de nos interventions en Afrique, mais on l'a fait pensant sécuriser un espace qui, du fait de la montée du djihad, pouvait directement nous menacer. Donc ça s'entendait d'un strict point de vue de défense de la sécurité nationale.
Nostalgie impérialiste aussi.
Pardon ?
Nostalgie impérialiste aussi.
Nostalgie impérialiste, on peut aussi mettre d'autres choses derrière, aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il faut que nous nous concentrions sur notre redressement national et qu'ensuite, peut-être dans un second temps, nous pourrons de nouveau... Parce que pourquoi aussi la France conserve cette prétention un petit, disons, universaliste ? Parce que la France a été très longtemps un pays dominant. Et donc, lorsque nous nous habituons à dominer le monde, à voir les autres pays imiter notre modèle, reprendre notre système politique, eh bien, nous pensons que nous avons une sorte de vocation universelle. Et c'est cette prétention à avoir une vocation universelle qui finit par se retourner contre nous lorsque, derrière le verbe, il n'y a plus les moyens matériels hein, de porter cette ambition. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, si bien que nous prêtons le flanc à des critiques assez classique, visant l'arrogance française. Et là, encore une fois, je crois que Emmanuel Macron incarne plus que jamais ce qui rend des fois la France irritable aux yeux de tout un ensemble de pays, notamment européens.
Mais la France ne crève-t-elle pas de ses nostalgies impérialistes, justement ? La France ne s'est-elle pas remise de ne plus être un empire ? Vous parlez d'isolationnisme, vous parlez même de Huntington. Qu'est-ce que qui sommes-nous, ou le choc des civilisations, sinon une critique nationaliste de l'impérialisme américain ? Et qu'est-ce que finalement que Donald Trump, de manière très confuse et très balbutiante, ou plus encore son vice-président, sinon une critique nationaliste de l'impérialisme américain. Est-ce que la France ne gagnerait pas, finalement, à faire vraiment une psychanalyse de son impérialisme, ne serait-ce que parce qu'elle est en train d'être recouverte par les marges de son ancien empire ?
Oui, oui, j'appelle à une forme d'introspection, à questionner en effet cet abstractionnisme, comme disait Hippolyte Taine, qui mène à une forme d'universalisme un petit peu abstrait, et qui fait que nous avons du mal à développer un raisonnement empirique. Partons de l'histoire, partons de la géographie, partons des conditions de la puissance, des conditions matérielles et des conditions immatérielles. Les conditions immatérielles de la puissance, c'est la fierté nationale. C'est le sentiment d'appartenance, c'est le patriotisme. Ça s'entretient aussi un petit peu. Il y a une sorte d'adhésion naturelle au patriotisme, puisque nous célébrons ce que nous sommes collectivement. Mais nous passons quand même aussi par ailleurs notre temps à déconstruire tous les éléments de fierté historique qui ont fait que la France a eu envie d'être autre chose, a eu envie d'être indépendante, par exemple. Bon. Donc il faut veiller à tout ça, et je pense qu'en effet, il y a un certain universalisme qui peut nous détourner de ces questions. Samuel Huntington critique ce qu'il appelle l'Amérique-monde, cette forme aussi d'impérialisme américain. Il y a un autre livre qui, je pense, a aussi préfacé largement ou appuyé intellectuellement le trumpisme. C'est Yoam Hazony, qui est un théoricien israélien et qui a publié « Les vertus du nationalisme ». Il opposait l'impérialisme progressiste qui veut reconfigurer l'homme à une sorte de nationalisme bien compris où chacun, au fond, respecte les identités des uns et des autres. Et puis, bah, évidemment, on essaye au mieux de défendre nos intérêts, donc ce qui peut induire des tensions, des relations commerciales. Mais partons du principe que nous sommes différents et qu'il faut cultiver ces différences. C'est un petit peu du Lévi-Strauss qui disait aussi qu'il fallait rester sourd à l'appel d'autres valeurs pour que le monde reste divers.
Ah, tout à fait. Et donc, il a été l'apôtre de la différence, mais justement des différences soigneusement sauvegardées. Merci d'avoir prononcé ce mot nationalisme, parce que juste avant, avec votre éloge de l'empirisme, j'avais évidemment empirisme organisateur qui était en train de trotter dans la tête. Le nationalisme, c'est un gros mot, alors qu'on est en train de se rendre compte, partout sauf en France, que l'Allemagne est en fait très nationaliste. Donc c'est la grandeur de l'Allemagne, c'est la puissance de l'Allemagne. C'est la force de l'Allemagne, c'est sa capacité à imposer cette puissance dans les relations internationales avec son hinterland, tous ces pays de l'Est qui lui servent de réservoir de main-d'œuvre pas cher, et à l'extérieur, voilà, avec le fait d'imposer le Mercosur. L'Allemagne est nationaliste, l'Inde est nationaliste, la Chine est nationaliste. Quel pays, en fait, n'est pas nationaliste au monde aujourd'hui ?
Tout à fait. Le patriotisme, le nationalisme... Alors moi, je vous avoue que ce débat entre patriotisme et nationalisme, je le mets un petit peu de côté. Choisissez le terme que vous préférez. Donc on va dire nationalisme, puisque vous m'invitez à parler du nationalisme. Le nationalisme, c'est la volonté de cultiver, d'entretenir, de sécuriser, de prolonger l'espace national, la mère patrie, ce que nous sommes. Hein, bon. Ce que nous sommes politiquement... un État souverain, ce que nous sommes culturellement, le produit d'une histoire, de traditions, de mœurs, etc. Donc en effet, tous les pays du monde sont animés de ce souci-là. Moi, j'avais publié un premier livre où je parlais du patriotisme des petites nations d'Europe centrale et orientale. Donc, le problème de la France, c'est qu'elle se situe... Elle ne peut pas adopter le patriotisme des petites nations qui se savent mortelles, parce qu'elles ont... Pardon ? Le patriotisme compassionnel de Simone Veil, en effet. Les petites nations en sont animées parce qu'elles savent qu'elles peuvent mourir, elles ont déjà vécu sous le joug d'empire. Il y a le patriotisme de la puissance que Simone Veil pourfendait, mais qui est en effet le patriotisme des grands, qui ont toujours rayonné et qui donc tirent de cette fierté nationale un sentiment d'appartenance qu'ils entretiennent. La France appartient plutôt à cette catégorie-là, historiquement, et Simone Veil le regrettait. Le problème, c'est que lorsque vous n'êtes plus à la hauteur de cette puissance-là, eh bien, vous êtes quelque peu dépourvu du patriotisme qui est pourtant nécessaire pour se défendre dans un monde difficile, et le monde a toujours été difficile. Nous ne pouvons pas avoir le patriotisme d'un Polonais ou d'un Hongrois, nous ne pouvons plus forcément avoir le patriotisme que nous avons eu avant, alors il faut trouver une sorte de nouveau patriotisme. Moi je pense qu'il n'y aura rien peut-être de nouveau à inventer, qu'il y a peut-être au contraire à redécouvrir, une sorte de fierté historique. Le patriotisme français s'est quand même beaucoup construit, je pense notamment à l'école, à travers le roman national, en apprenant aux petits Français qu'ils étaient les héritiers de grands hommes, d'une histoire, d'une terre nourricière. Vous êtes les héritiers d'une terre façonnée par vos pères, disait le petit Lavis dans la première page du roman national. Et donc, je veux dire, on ne peut pas espérer voir la France être unie, vouloir se défendre, si l'on passe notre temps à déconstruire notre histoire et les grandes figures, ces professeurs d'énergie, comme disait Barrès, qui ont été nos rois, qui ont été Jeanne d'Arc, qui ont été Napoléon, et j'en passe, nos écrivains, nos poètes, nos architectes.
Merci de ne pas avoir cité De Gaulle. Je suis sensible.
Il aura sa place.
c'était très gentil. J'ai senti que vous l'aviez au bord des lèvres. Évidemment, on ne peut que souscrire à ce que vous dites, et surtout, on se rend compte que dans le monde entier, l'exaltation du passé fait partie de la chose la plus normale, que dans les pays les plus communiste, en fait, il y a un nationalisme. On en parle régulièrement avec Raphaël Audouard, donc, qui intervient dans la matinale et qui passe sa vie à fréquenter tous les nationalistes des pays communistes ou socialistes et qui, à chaque fois, ne comprennent, sont socialistes certainement, mais internationalistes certainement pas. La France, au contraire, est en ce moment truffée de gens qui nous disent qu'elle doit disparaître, qu'elle doit se transformer. Alors, elle doit se transformer culturellement en étant multiculturelle, elle doit se transformer même ethniquement avec Jean-Luc Mélenchon qui prêche la créolisation, elle doit se dissoudre dans l'Union européenne. Emmanuel Macron passe son temps à vomir les frontières françaises et à considérer que ce n'est pas la bonne taille. Et est-ce qu'il y a, en fait, dans cette exaltation historique, et on ne peut la relier aussi qu'à la construction d'un territoire. Donc, est-ce qu'il y a une vérité de la nation? Est-ce qu'il y a une vérité des frontières? Parce que là aussi, l'histoire nous apprend aussi bien la vérité du Liechtenstein que la vérité de la France, que la vérité de la Russie. Et la Russie n'a cessé de voir ses frontières bouger, la France aussi. Et donc, sur quoi peut-on réellement fonder un patriotisme, un nationalisme, alors qu'on a l'impression que la langue évolue, le territoire est en fait mobile, que le peuple en fait est un stock autant qu'un flux.
Alors on parlait
on touche
de
la philo là.
On parlait de
bah, oui mais
d'avoir justement une forme de réflexe empirique. Je pense que le sentiment d'appartenance à la nation française, il existe. Nous regrettons que nos élites peut-être ne soient pas des fois à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire, du sentiment national qui nous anime, mais parce que ce sentiment national nous anime. Donc il existe un peuple français dès lors que des gens se reconnaissent, non seulement comme membres d'une communauté nationale qui s'appelle la France, et en demeurent tout de même, malgré tout, fiers. Et donc moi je pense que dès lors qu'il existe une fierté, dès lors qu'il existe un sentiment national, cette nation existe. Ensuite, la question, elle est politique. C'est comme, que fait-on de ce carburant national? On l'a bien vu hier, c'est-à-dire que quoi que nous pensions d'Emmanuel Macron, il a pu exalter une forme de fibre nationale parce qu'il s'est tout d'un coup, je mets de côté les implications de son discours, mais en se posant solennellement devant un sous-marin nucléaire, il a rappelé que la France était quelque chose de grand, de fort, le produit d'un héritage, d'une volonté de nos aïeux de faire en sorte qu'elle soit forte et indépendante. Et donc, il faut s'appuyer sur ce carburant national-là. Il existe. Après, qu'est-ce qu'on met derrière? Alors, on va mettre derrière... Je parlais de notre histoire, moi ça me semble important, il faut réhabiliter la chronologie, il faut réhabiliter une forme de, j'allais dire, de dévotion pour nos grands hommes, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, une forme de gratitude, j'aime bien le terme de gratitude, gratitude à l'égard de nos aïeux, gratitude à l'égard de nos ancêtres, mais on peut aussi s'appuyer sur des éléments plus culturels, un art de vivre, la gastronomie, nos paysages, enfin, il y a tout un ensemble de choses qui peuvent nous permettre de nous accrocher charnellement à la nation française, tout ça existe. Ce qui n'existe pas encore, c'est la politique qui utilise ce matériau existant pour que la France s'affirme comme une nation libre et souveraine. Voilà. Donc je dirais qu'il n'y a pas à inventer quelque chose, il y a à prendre en main l'existant. Il faut ramasser, comme disait Simone Veil hein, dans son fameux livre, L'Enracinement, le drapeau national. Il faut se saisir du drapeau c'est national qui jonche
c'est
le sol.
La définition étymologique d'inventer, d'ailleurs. Faire venir ce qui est, justement, au sens de l'inventer.
Eh bien, très bien.
Je pensais. Alors, désolé, je fais un peu le prof. Est-ce que nous interrogeons notre invité sur l'actualité brûlante, Richard de Sèze, notamment géopolitique?
En lui parlant du discours de Macron hier, j'avais l'impression d'être assez brûlant, mais si vous avez un truc encore plus chaud là chez vous.
Notre invité a commis des livres quand même sur la reconfiguration mondiale, le basculement des systèmes d'alliance, et on parle depuis 2 ou 3 jours de l'embrasement du monde, de la marche vers la guerre. Jean-Jean Istoutou y faisait allusion, du grand décalage. On ne sait trop par où commencer, d'autant qu'il ne nous reste que 10 minutes. Vous aviez effectivement évoqué en décembre dernier avec nous cette grande reconfiguration de la politique américaine qui semblait restreindre ses intérêts à la façade atlantique et à la façade pacifique, théorie de l'hémisphère. Et là, on voit que l'Amérique a tendance à aller un peu plus loin. On voit qu'il y a des bombes sur l'Iran, on voit qu'elle est entraînée dans un conflit dont on ne sait pas vraiment où il va ni où elle va. Alors, encore une fois, par où commencer, mais qu'est-ce que pourrait vous inspirer justement ce dépassement de ce qu'on pensait être un horizon stratégique limité?
Alors, oui, mais alors, c'est un petit peu l'erreur qu'on a commise, et peut-être que j'ai pu un petit peu des fois y participer, mais dans la doctrine américaine, il y a cette idée d'hémisphère. il y a l'idée qu'il faut se rabattre sur notre hémisphère, c'est-à-dire faire en sorte que notre hémisphère nous reste fidèle. La Chine n'a pas à mettre son pied en Amérique latine, c'est trop tard, mais nous sommes légitimes en tout cas à investir les lieux pour reprendre la main.
On est bien d'accord que quand vous dites nous, vous parlez à la place des États-Unis.
Les Américains. Ceci dit, dans la stratégie nationale américaine, il est affirmé que nos alliés asiatiques notamment, l'expression y figure, doivent se tourner vers d'autres marchés émergents pour cesser de nourrir la machine industrielle chinoise. Il y a quand même l'idée de tempérer la montée en puissance de la Chine, non pas pour préserver l'hégémonie américaine qui a vécu, mais pour limiter la casse, en quelque sorte, si j'ose dire. Et dans ce cadre-là, les États-Unis usent de leur dernier atout, l'atout dont ne dispose pas encore tout à fait la Chine, qui d'ailleurs s'interdit cet atout-là, qui serait d'intervenir militairement en dehors de ses frontières. Les États-Unis utilisent toute la force de frappe l'industrie militaire américaine pour gagner des positions géostratégiques. Et je ferai un parallèle entre l'Iran et le Venezuela. Ce sont deux fournisseurs énergétiques importants de la Chine. L'objectif de Donald Trump n'est pas de reconfigurer démocratiquement, ça n'aura échappé à personne, le Moyen-Orient. Ce n'est pas de mettre en place au Venezuela un système autre que le chavisme en place, dès lors que le chavisme se glisse dans les pas des intérêts américains. Donc le but, c'est de détourner le pétrole vénézuélien qui alimentait la Chine pour qu'il alimente les États-Unis. Le but, en attaquant l'Iran, est aussi de gêner la Chine. La Chine, c'est la vision américaine.
Et croyez-vous à l'emballement des alliances? Croyez-vous dans cette espèce de scénario apocalyptique qu'on dessine depuis 2 ou 3 semaines avec des troupes au sol en Iran, une guerre longue dans laquelle s'épuiseraient les États-Unis? Où on va là? Parce que nos auditeurs sont un peu perdus, nous-mêmes alors, d'ailleurs. C'est surtout des très pessimistes tout à l'heure.
Oui, alors merci de cette relance. Alors, durant les 2 premiers jours du déclenchement donc cette nouvelle guerre, de ces frappes israélo-américaines en Iran, on a rappelé que, et Benjamin Netanyahou l'a rappelé lui-même, qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes au sol. Normalement, quand on fait du regime change, quand on veut changer le régime, on est obligé quand même d'envoyer des troupes au sol, d'investir les lieux, de créer une sorte de gouvernement de transition. On est obligé de faire un petit peu ce qu'on a fait en Irak et en Afghanistan. Là, il y avait l'idée qu'on allait simplement apporter notre pierre à un édifice chancelant que le peuple iranien lui-même allait briser. Et là, depuis quelques heures, depuis ce matin ou depuis hier soir, je ne sais plus très bien, Donald Trump a annoncé qu'il n'excluait plus d'envoyer des troupes au sol. Moi, j'y crois moyennement parce qu'il y a ce traumatisme de la guerre en Irak, 4 500 soldats américains morts, 300 000 Irakiens tués, en 8 ans des milliards engloutis, pour quel résultat? Et on peut parler aussi de l'Afghanistan. Mais je pense qu'il fait planer cette menace-là. Le problème, c'est qu'à force de laisser planer des menaces sans les exécuter, il y a un risque d'emballement. Et si les Américains investissent l'Iran dans l'espoir, en effet, d'assurer une forme de bascule politique, de changement de régime, eh bien, on est reparti pour 10 ans. Je ne vois pas comment, en quelques jours, les Américains pourront reprendre la main sur un pays aussi fier et compliqué que l'Iran. Parce que l'Iran n'est pas uni contre son régime, même si une majorité de la population en a marre. Ça ne veut pas dire qu'elle acceptera un basculement imposé du dehors. L'Iran n'a jamais été colonisé. Il y a une forme de fierté nationale très importante qu'il ne faut pas minimiser. Et Netanyahou l'a d'ailleurs rappelé en parlant du fier peuple iranien. Donc, et l'autre point qu'il faut avoir en tête, et qui justifie aussi votre inquiétude, c'est que la Chine a aussi communiqué sur le risque représenté pour elle la perte d'un allié aussi important en matière énergétique. Donc que va faire la Chine à force d'être gênée dans ses positions? Sur le Venezuela, on avait eu la surprise de voir qu'elle se tournait vers le Canada, qui était davantage désormais disposé à lui ouvrir ses portes énergétiques. Gaz, pétrole, le Canada est une puissance énergétique. Là, sur l'Iran, est-ce que la Chine va laisser faire ou va, d'une manière ou d'une autre, chercher à défendre ses intérêts? Je laisse la question en suspens.
Parce que là, pour le moment, l'armement chinois, qui est censé faire partie en fait, de l'arsenal iranien, n'a pas prouvé sa pertinence. Les Iraniens ont choisi la quantité par rapport à la technologie. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont sans technologie, mais ils ont des missiles qui coûtent beaucoup moins cher que les missiles américains et autres. Et donc là, on a l'impression que les quelques missiles chinois qui étaient censés être particulièrement véloces et particulièrement efficaces, et ceux que d'ailleurs que Xi Jinping avait fait défiler il y a quelques semaines devant le monde entier pour bien au moment du sommet qu'il avait accueilli à Pékin, ben on n'a pas l'impression que ça a été redoutablement efficace. Donc la Chine apparaît systématiquement comme une menace, mais en même temps elle noue des alliances commerciales, elle bâtit des routes de la soie, elle réussit à ruiner quelques ports grecs, donc on n'a pas non plus l'impression que la Chine est autre chose malgré tout qu'une puissance commerciale qui en fait rechigne en permanence au combat.
Et parce que contrairement à un discours fort répandu, la Chine n'est pas une puissance révisionniste. Les Américains cherchent à changer le système international, à créer une sorte de sous-ONU qu'on appelle le Conseil de la paix ou le Comité de la paix, je ne sais plus, cherchent à bousculer les règles de la mondialisation en cassant l'OMC, en privilégiant le protectionnisme, des accords bilatéraux. La Chine, comme le disait encore une fois le Premier ministre canadien, apparaît par contraste comme une puissance de stabilité. La Chine, c'est la force tranquille. Je sinoïse les institutions multilatérales internationales que les États-Unis ont créées pour américaniser le monde. À l'ONU, où je dispose d'une certaine influence grâce à ma proximité avec les pays du Sud, l'OMS que j'ai fortement aussi investi, l'OMC dans laquelle je me suis glissé, la Chine, c'est à travers sa puissance commerciale qu'elle aspire à petit devenir une force telle qu'on ne pourra plus lui résister le jour où elle décidera d'attaquer Taïwan. Et je ne pense pas qu'elle aura d'autres ambitions que de préserver son hégémonie économique. Et pour cela, en cohérence avec sa volonté d'assumer sa montée en puissance économique, elle ne va pas, et à ce titre, de proposer des accords gagnant-gagnant avec les pays dits du Sud, notamment avec les pays africains, elle ne va pas se mettre à faire de l'interventionnisme occidental. Donc il y a une forme de doctrine qui est tout à fait cohérente et qui fait que je ne vois pas la Chine demain, par exemple, faire la guerre aux États-Unis au nom de la défense de l'Iran.
Donc, pour conclusion, dans un monde aussi dangereux, guerre en Iran, tension en Chine, etc., malgré tout, l'isolationnisme français ne serait pas inconséquent, il aurait malgré tout du sens. Est-ce que vraiment on est menacé par le bordel au Moyen-Orient? Est-ce que vraiment on est menacé par l'activisme chinois?
Moi, j'avais retenu, en effet, ces dernières semaines, vous vous souvenez, on se demandait si les Américains allaient frapper l'Iran, on nous expliquait que l'Arabie Saoudite avait retenu le bras de Donald Trump parce que l'Arabie Saoudite craignait les conséquences pour la région d'un changement de régime en Iran. La question qu'il faut se poser en tant que Français, c'est que se passerait-il si en effet un changement de régime avait lieu en Iran? Il y a pire que la dictature, disait Renaud Girard, il y a la guerre civile. Que se passerait-il si une guerre civile est déclenchée en Iran? Si tout le Moyen-Orient est déstabilisé, le Moyen-Orient est à nos portes. Donc c'est ce type en effet de raisonnement très froid, très pragmatique qu'il faut que nous ayons en tant que Français. Mais ne pas oublier que, et on peut le regretter, nous sommes aussi embarqués par un jeu d'alliance, notamment avec les Émirats Arabes Unis, qui fait que depuis Nicolas Sarkozy, nous devons aussi, en vertu de certains accords, défendre un certain nombre d'alliés de la région.
Merci Nicolas, merci Emmanuel, mais surtout merci beaucoup Marc-Servan Gatineau pour cette participation nouvelle à Restons Courtois. Et je dis au revoir à tout le monde et que demain, vous avez rendez-vous avec Arthur de Vatrigan.
Ça suffit maintenant!